La précarité menstruelle constitue un enjeu important de santé publique et de solidarité. Elle concerne près de 2 millions de femmes, soit une femme sur 10 dans le monde, dont l'accès aux protections hygiéniques est difficile ou impossible pour des raisons avant tout financières. Avec Nausicaa, on a reçu au studio Gaëlle, une des créatrices de l'association Menstruaction qui, face à ce combat de tous les jours, propose des actions quotidiennes.
Je suis Gaëlle, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Menstruaction. On est une asso qui lutte contre la précarité menstruelle et on sensibilise sur les règles, donc les menstruations et la sexualité un petit peu. L'association, elle est sur Le Havre et Rouen, donc Normandie à fond. À côté de ça, on est majoritairement composé d'étudiants, ce qui est un peu aussi le biais compliqué de l'asso, c'est-à-dire qu'il faut trouver des bénévoles chaque année puisque les étudiants partent, viennent, etc. Voilà brièvement ce qu'est Menstruaction.
Un petit point de définition de nous dire ce que c'est la précarité menstruelle.
Avec plaisir. Du coup, la précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir assez de ressources financières pour s'acheter des protections, donc périodiques. Et ça s'entend aussi dans le sens où il y a un manque d'informations flagrant sur la question des menstruations, que ce soit sur le point de vue médical ou même sociétal, d'où le tabou qui existe. Et donc, voilà, précarité financière, mais aussi morale un peu et sociologique.
Éducative.
Éducative, complètement.
Et alors, t'as dit que vous faisiez une pause, mais... Ça fait combien de temps que vous existez à peu près ?
Eh bah, figurez-vous que cette semaine, le 27 janvier, ça fera 4 ans que l'asso existe. C'est énorme, j'ai l'impression que c'est la semaine anniversaire. Et donc, on a créé l'asso en 2020. On est bien en 2024, oui. Donc ça fait bien 4 ans, donc voilà.
Tu faisais partie de ceux qui ont créé l'association ?
Oui, en fait, je n'avais pas conscience de la précarité menstruelle avant de créer l'asso. Et si j'ai créé l'asso, c'est parce que j'ai eu accès à un article qui parlait de l'association nationale Les Règles Élémentaires. Donc cette association, c'est un peu le même concept que nous, en fait. J'ai un peu repris l'idée, c'est-à-dire vraiment sensibiliser et lutter contre la précarité. C'était un choc un peu de me dire quoi, j'ai jamais réfléchi à ce problème. Je connais des gens qui en ont souffert, j'ai moi-même déjà souffert de ça, parce que quand t'es étudiant, un mois ne fait pas l'autre, quoi. Même juste de se questionner sur pourquoi c'est tabou, pourquoi t'as honte, et genre si tu poses pas devant ça, un moment dans ta vie, tu vas pas forcément te questionner dessus, tu vas te laisser emporter par courant classique de tais-toi si t'as tes règles, si t'as mal, c'est ok. Je me suis dit, c'est pas ok qu'on soit autant à pas s'être rendu compte de ça, il faut vraiment faire quelque chose au niveau local, parce que du coup règles élémentaires c'est national et au final en y réfléchissant il y a vraiment plein de choses à faire et c'était cool d'avoir un petit fief normand de lutte contre la précarité quoi. Et puis surtout étudiant parce que à l'université il y a pas mal d'assos mais surtout des assos étudiantines du style BDE, donc c'est pour faire la fête, ce qui est cool, mais il y a pas assez de choses engagées et du coup c'était l'occasion d'apporter un peu de diversité et de réunir les gens au-delà des filières.
Et quelles sont vos actions concrètement dans l'association ?
Donc la base c'est faire des collectes. Donc on va devant des supermarchés comme la banque alimentaire, sauf que nous on demande que des protections, ce qui est assez marrant parce que les gens ne comprennent pas du tout. Et donc c'est le meilleur moyen de sensibiliser au final parce que de là forcément les gens vont se questionner, vont se dire ah oui, peut-être soit je m'en étais jamais rendu compte, soit ils connaissent déjà et ça leur donne d'autres idées pour agir en fait et des moyens d'action. Et donc c'est vraiment que des protections. On ne demande pas d'argent à ce moment-là, comme ça vraiment les donateurs ils ont conscience de oui, concrètement pour ça et pour rien d'autre. Après on a mis en place des boîtes à dons aussi. Comme on a créé l'asso en 2020, confinement qui est arrivé dans la foulée. Donc on a fait beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux pour avoir un autre public même plus large. Et donc c'est plein de posts informatifs en fait, des amorces, puisqu'on n'est pas des professionnels de santé. Toutefois il y a quelques professionnels qui sont intervenus. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir accès au contenu un peu éducatif qu'on a fait. On a créé une super expo qui a été en itinérance là toute l'année dernière dans tous les campus universitaires normands grâce au CROUS, le service culturel du CROUS Normandie. L'exposition revient là au Havre, là, vraiment là tout de suite maintenant, au restaurant universitaire jusqu'à début mars. Donc il n'y aura pas toutes les œuvres mais il y a une partie et c'était génial en fait l'expo. Elle s'appelle Les Règles du Jeu, il y a 3 artistes qui sont venus proposer leurs œuvres et une muséographe qui a fait un travail d'analyse et de recherche un peu ethnographique en fait sur la question des menstruations. Et il y avait aussi des superbes initiatives étudiantes. Donc c'était des dessins qui étaient en lien avec l'exposition. Et donc voilà, donc il y a cette expo. Là on est sur la confection d'un festival à Rouen, parce que du coup on agit au Havre et à Rouen, comme je l'ai dit. Après bah, c'est des ateliers, soit on est appelé par des écoles type lycée ou collège, donc on fait des interventions éducatives. En fait en mixité, parce que la volonté c'est aussi d'inclure les hommes, avec un grand Z. Non, je... Non, en fait, il faut quand même qu'ils... Enfin, on les exclut absolument pas de notre cause et de notre lutte. En fait, c'est un travail d'équipe. On est tous sur le sujet. Enfin, voilà, les hommes sont aussi les bienvenus. Et surtout, il faut qu'ils aient accès à ces infos. Donc, nos interventions, elles sont aussi à destination des hommes. Même les posts qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Mais il y a pas mal d'autres projets qu'on a envie de mettre en place. Mais voilà, enfin, maintenant, il faut essayer d'avoir du monde. Parce que sur le Havre, on est vraiment peu. Maintenant. Du coup, ça restera un peu, mais c'est ok, hein, c'est cosy, c'est mignon, c'est cool.
Et comment devenir bénévole alors?
Et bien, c'est tout facile, enfin tout simple. Il suffit d'aller sur le Instagram. Il y a dans la bio, il y a en fait le lien internet en fait, où on s'inscrit, c'est un formulaire Hello Asso. Et après, du coup, en fait, vous êtes intégré dans la base de données. Vous avez accès à toutes les mails et c'est pas contraignant. En tant que bénévole, on veut pas forcer, enfin il faut vraiment que ce soit de volontaire. Donc si vous n'êtes pas disponible pendant 4 actions mais que la 5e vous êtes dispo, vous serez tout aussi bien accueilli que si vous aviez été là pour toutes les actions. C'est pas hiérarchique dans l'asso, c'est vraiment, on est sur de l'horizontalité totale. Donc s'il y a des projets qui peuvent être proposés par des bénévoles, typiquement l'exposition, c'était une... Elle était même pas encore bénévole, mais c'est une étudiante de l'université qui nous a contactés, on l'a fait ensemble. Donc on est là pour chapeauter un peu, mais enfin voilà, en fait ça va pas que dans un sens.
Est-ce que par exemple vous agissez du coup directement dans l'université?
Oui, en fait j'ai oublié que la base c'est l'université en vrai. Bah, la première grosse action qu'on a menée, c'était vraiment au tout début de l'asso, c'était la mise en place des distributeurs. En fait les distributeurs ils ont été amenés via l'association et bah, aussi l'université qui a fortement contribué. Qui a bien payé, qui a bien contribué. Donc il y a eu les distributeurs qui ont été mis en place, on a des boîtes à dons qui sont disponibles sur le campus et en fait le concept il est assez simple pour ces boîtes-là. Tous les dons qui sont remis dedans, on les remet dans les toilettes où il n'y a pas de distributeur. Comme ça, en fait, là, les étudiants ou les étudiantes peuvent en prendre plusieurs. Bon, même dans les distributeurs, en soi, ils peuvent aussi, mais c'est juste que ça fait encore plus parce que bah, on est tellement nombreux et nombreuses à subir ça que même en vrai, pas sans vraiment être victime de précarité menstruelle, genre juste avoir un oubli, ça arrive à tout le monde. Donc, comme les distributeurs peuvent être vides, parfois, ça permet d'avoir une solution de repli. Et voilà, donc ces boîtes à dons sur le campus sont uniquement pour les étudiantes et étudiants. En tout cas, personne menstruée étudiante. Et donc voilà, on a mis en place une conférence à ce moment-là aussi où on avait invité en fait une ancienne femme sans abri qui maintenant est chroniqueuse. Je crois qu'elle est toujours chez RMC et elle est aussi comédienne. Et on avait invité aussi le membre d'un collectif qui lutte contre la précarité menstruelle au niveau national. Et du coup, c'était l'occasion d'avoir le témoignage d'une personne qui a vécu à la rue, enfin une femme, avec la question des menstruations. C'était super intéressant. On a fait aussi une projection du documentaire d'Angèle Marais qui est... je crois que c'est 28 jours, je crois que c'est ça. Mais du coup, c'est un documentaire qui parle des menstruations, de tout le tabou. Il est vraiment super et il en libre accès. Voilà. Et là, on prévoit pour la clôture de l'exposition là, qui est revenue au Havre, on aimerait organiser une conférence d'une autrice qui s'appelle Jeanne Guyenne. Je ne sais pas si je viens de dire Jeanne Guyenne ou Guyenne. Elle a écrit un livre qui s'appelle Une histoire des produits menstruels et c'est vraiment la croisée de tout ce qu'on aborde dans l'exposition et c'est hyper riche d'informations. Et c'est fou comme quoi, si on prend juste ce sujet, genre juste une serviette, un tampon qu'on a toutes chez nous ou toutes déjà eues, bah en fait, il y a une sphère énorme de problématiques et de questions qui en découlent. Et c'est genre super pour déconstruire plein d'aspects, que ce soit le point de vue commercial, enfin publicitaire, tout ça, le point de vue sociétal, en tout cas enfin même classiste, un peu riche-pauvre, parce que bah, dans la création, la mise en place des produits menstruels, il y a vraiment eu du séparatisme fort et bah aujourd'hui on s'en rend pas compte mais on a un héritage de tout ça et c'est bien d'avoir accès à toutes ces infos. J'ai fait un gros spoiler mais on n'a pas encore la date de poser, j'espère qu'elle sera disponible et tout, mais c'est le projet et puis autrement je pense que dans tous les cas si c'est pas là tout de suite on arrivera à le faire après, sans pour parler avec l'UNIF.
Tu parles de protection menstruelle, est-ce que vous faites quelque chose concrètement pour passer des protections jetables à des protections qui ne soient plus jetables, comme les culottes menstruelles, comme les serviettes menstruelles aussi, mais qui soient lavables.
Mmh. Oui, bah alors on avait fait... Après, la cup, c'est cool, mais il y a encore pas assez de points d'eau. Enfin, souvent, ça peut être un peu problématique. Faut connaître bien les lieux où tu vas, parce que sinon, tu peux être un peu embêté. Et surtout qu'il y a un risque de choc toxique aussi avec la cup. C'est juste la stase du sang, c'est un choc toxique. Dès qu'il y a une stase de sang à en interne, que ce soit tampon ou cup, le choc toxique peut arriver. Donc, c'est important d'avoir quand même conscience qu'il faut avoir des locaux où il y a des points d'eau. En gros, on est sur un projet, ça fait 3 ans qu'on essaye de faire financer des kits de protection réutilisables avec une ou deux culottes ou une culotte et plusieurs serviettes lavables pour amener en fait les étudiantes, les personnes menstruées à avoir accès à des protections réutilisables parce que comme tu l'as soulevé en fait c'est une masse folle de déchets, ça se compte en milliards de tonnes par an, pas recyclable forcément, donc l'idée aussi c'est de lutter aussi avec notre époque, la cause environnementale est très importante, donc voilà, on a cette volonté, on a même créé un livret, tout est prêt, vraiment sur le papier tout est là, il faut juste qu'on trouve des financements, ce qui est plus compliqué, même on aimerait pouvoir viser au-delà de l'université parce qu'il y a des écoles qui n'en font pas partie et où il y a des élèves qui pourraient c'est sûr ça plairait quoi, donc le projet il est là et puis comme on a vraiment beaucoup de projets et on peut être sollicité forcément, s'il y a des projets, comme je vous l'ai dit ça fait 3 ans qu'on essaye de le mettre en place et on est déjà passé dans plusieurs commissions et on nous a fait croire que c'était bon jusqu'à ce qu'à la dernière minute, plus de nouvelles. On perd un peu le fil, mais c'est un projet. Et puis même sur les réseaux sociaux, on en parle. Dans l'exposition, il y a aussi ça qui est abordé. Donc ouais, mais c'est important.
N'hésitez pas à rejoindre Menstruaction.
Ouais, voilà. On est gentils, vraiment.
Et les hommes sont les bienvenus pour se battre contre la précarité menstruelle.
Oui, on a des bénévoles hommes et qui font un travail tout aussi remarquable que les femmes. Donc, faut le soulever. Et puis, c'est aussi... ça, c'est intéressant parce que quand on fait des actions de collecte, du coup, et que des hommes tiennent les stands, ou même sans aller dans la collecte, juste quand il y a un homme qui tient le stand, il y a toujours un moment de bug chez la personne qui passe devant le stand ou la collecte. Une fois que les garçons expliquent pourquoi ils sont là en fait et qu'ils ont aussi leur place et qu'ils veulent contribuer, aider, en fait ça permet d'amener d'autres hommes et même juste certaines femmes, ça les décomplexe aussi sur ce sujet parce qu'en fait ça peut être dans le cadre juste familial ou privé, amical, qu'elles ont eu des hommes dans leur entourage qui leur ont fait ressentir cette honte et ce tabou. Et là de voir que c'est pas tous et que y en a même qui ont pu avoir ça ou le faire sans s'en rendre compte et qu'aujourd'hui ils sont bénévoles pour une asso qui lutte contre la précarité menstruelle, ça donne de l'espoir. Donc en vrai c'est cool. Aussi ce qui est sympa à noter c'est que quand on fait des collectes, en vérité c'est majoritairement des hommes qui nous donnent des dons. Et j'ai plusieurs cas pendant des collectes où c'est des hommes avec des caddies remplis. C'est pas une ou deux protections, c'est des caddies remplis de protection, ils nous les ramènent. Alors que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais souvent chez les femmes, je pense que c'est parce que c'est un héritage en fait de tabou et normalement faut pas en parler quoi. Donc qu'est-ce que vous faites à en parler sur la place publique? C'est un sujet, ça reste entre nous les filles. Il y a certaines femmes qui peuvent être très réfractaires à la cause et il faut tout pour faire un monde et ça veut pas dire qu'elles changeront pas d'avis plus tard, mais c'est intéressant en fait comme parallèle à faire.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et renseignez-vous pour aller voir Menstruaction.
Voilà, si vous voulez pas qu'on meure.
Super voilà. Conclusion.
Merci à Gaëlle d'être venue jusqu'au studio pour nous présenter son association Menstruaction. N'hésitez pas à retrouver Menstruaction sur les réseaux sociaux et à les soutenir sur Hello Asso. Et pour retrouver le podcast, rendez-vous sur west-track.com.
C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio.